J'aimerais un peu continuer sur la suite qu'on a fait un peu sur le repas des fêtes. Mais j'aimerais ce matin regarder des choses importantes. Vous savez, ça va être bon pour votre témoignage en même temps quand vous allez témoigner ou se rappeler qu'est-ce que Jésus a fait, pourquoi que Jésus est venu. Et souvent, on ne comprend pas toujours le pourquoi. Oui, il est venu nous sauver, oui. Mais pourquoi qu'il est venu nous sauver? Oui, il nous aime, c'est vrai qu'il nous aime, mais le fond de ça, c'est pourquoi qu'il est venu. Et un matin, j'aimerais ça, ça va être un petit peu technique au début, vous juste placer ça, mais j'aimerais ça mettre une fondation de la vie chrétienne. Quand on va témoigner, ou vous allez témoigner, ou vous rappeler qu'est-ce que Jésus est venu sur la terre, il y a une raison pourquoi que Jésus est venu. Il n'est pas venu ici par hasard. C'est pas une balle perdue, c'est pas un objet perdu, c'est un sauveur qui est venu. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous la base de la vie chrétienne en réalité. On va regarder quelques points de pourquoi qu'il est venu. Mais avant de parler de cela, j'aimerais parler ce matin de retrouver ce qui nous a été volé. Et nous savons que Jésus est venu pour guérir, restaurer, relever, on sait ces choses-là, mais il est venu pour une raison. On va commencer avec le début de la fondation. On va regarder Genèse, chapitre 1, versets 27 et 28, qui est extrêmement important. Nous allons regarder les 10 premières minutes, qui est important de mettre la fondation devenue. Qu'est-ce qui est arrivé au début de la création? Donc, lisons le verset 1 et le verset 27, 27 et 28, chapitre 1, verset 27 et 28. « Dieu créa l'homme à son image, le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, il leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et c'est tout animal qui se meut sur la terre. » Seigneur, on veut te bénir, on veut te rendre grâce ce matin pour ton amour, pour ta grâce. Seigneur, tu es un Dieu qui nous aime. Tu es un Dieu qui est venu nous montrer aussi ton amour envers chacun de nous. Il n'y a rien d'impossible que tu ne peux pas faire. Tu es le Dieu du miracle. Et Seigneur, ce matin, à travers l'enseignement, fais-nous réaliser à quel point que tu nous as aimés, à quel point qu'on a de la valeur à tes yeux, à quel point, Seigneur, que tu nous as rachetés. Seigneur, on veut te dire merci. Seigneur, bénis la parole, encourage-nous, fortifie-nous et instruis-nous à travers la parole. Père, dans le nom de Jésus, amen et amen. Donc, nous voyons dans notre texte que l'homme et la femme ont été créés à la ressemblance de Dieu. Dieu a créé l'homme, premièrement, avec un esprit pour communiquer avec l'homme. La Bible nous enseigne que Dieu est esprit. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec un esprit pour avoir de la communication avec lui. Il est essentiellement, on était tiré de lui, prêt à son image, afin que l'homme soit comme lui, lui ressemble à tout point de vue. Donc, il créa l'homme et la femme en tant qu'esprit. Et la Bible nous dit, Genèse, chapitre 5 et verset 2, il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme. Donc, homme ou femme, homme. Pourquoi? Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. L'homme a un esprit et la femme a un esprit qui nous appelle homme. Est-ce que ça va jusqu'à là? Alléluia! Maintenant, le plan de Dieu pour l'homme, ça n'était jamais également été prévu qu'un être humain domine sur un autre être humain ou son espèce. L'homme est appelé à régner sur la création des ressources de la terre. L'humanité a été créée avec un mandat d'autorité, ce qui confère notre responsabilité de représenter le gouvernement de Dieu, le royaume des dieux sur cette terre, parce que le plan de Dieu, c'est que l'humanité incarne la nature de Dieu sur cette terre. Maintenant, en créant l'homme, Dieu a donné à l'homme l'autorité pour qu'il affirmait sa souveraineté ici-bas sur cette terre. Écoutez bien, l'homme a reçu la souveraineté pour être le gestionnaire de la terre. C'est au début de la création. Et Genèse, chapitre 1, verset 28, nous dit « Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-lui, rendez-vous en maître et dominez sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel et sur tous les reptiles et les insectes. » Donc, on voit que l'homme n'est pas appelé à régner sur son espèce, mais sur la nature, sur les ressources de la terre. La première chose que Dieu va donner à l'homme, c'est sa bénédiction. Et le mot « bénir » vient du mot hébreu « barak ». Donc, Dieu donne à l'homme sa faveur, sa bénédiction, pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme s'épanouisse, pour que l'homme prospère sur cette terre et qu'il réussisse dans son mandat de gestionnaire sur la terre. Également, l'homme a reçu la bénédiction de Dieu pour que l'homme et la femme soient féconds et aussi pour faire prospérer et fructuer la terre en leur disant « multipliez-vous, remplissez la terre, soyez féconds, prospérez et l'assujettissez ». Donc, rendez-vous en maître. C'est ça le plan de Dieu. Donc, il dit, prends maître. La terre est pour toi, le ciel est pour moi, mais je vous donne la terre. Donc, la terre doit être soumise à l'homme. Et donc, Jésus, Dieu dit, dominez sur la terre, gouvernez en souverain. C'est le plan de Dieu. Maintenant, il dit, vous donne la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur terre. On lit bien ici, je répète, ça n'a jamais été prévu dans le plan de Dieu qu'un être humain domine ou règne sur son espèce. Ça, je veux que ça soit clair, la domination sur la vie des gens, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas ça. Le plan de Dieu, tu veux dominer, domine sur les choses de la terre. Domine sur les ressources de la terre. Rends-toi maître de ces choses-là, mais pas sur les autres. Wow! Dieu a donné l'autorité de s'occuper de la terre, des ressources de la terre, pour la maîtriser, la gouverner, la diriger, la contrôler et pour lui donner, pour qu'il puisse dominer. Écoutez bien, Adam et Ève ont reçu le mandat d'être des gestionnaires pour diriger et régner. La terre a été créée pour un royaume de rois. Allô? T'es pas appelé à être la queue, t'es appelé à être la tête. Dieu t'a appelé à être un dirigeant. T'as toi à régner sur la terre. Le but suprême de Dieu, c'est d'étendre son règne, c'est d'étendre sa volonté sur la terre. Et la seule chose que Dieu a demandé à l'homme, Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu vas en mangeras, tu vas mourir. » Donc, c'est clair. Dieu dit, tout t'appartient. Il y a juste un petit arbre, là. Il y a un fruit dans ça. Il ne touche pas, il dit, sinon c'est fini, c'est la mort. Et Dieu avait une intimité avec l'homme, une intimité parfaite avec Adam et Ève. Dieu parlait à l'esprit de l'homme. Alléluia, c'était un temps, j'imagine, si on se retrouve dans le jardin, ça doit avoir été merveilleux, une relation d'intimité parfaite. Ça a été brisé par la chute de nos premiers parents. La Bible nous dit dans Genèse, chapitre 3, que nous apprend qu'il y a eu un serpent, on connaît l'histoire, un serpent intelligent, rusé, manipulateur, menteur, qui va séduire Adam et Ève, au point que cet ennemi Satan a fait chuter l'homme de l'amour, de la grâce de Dieu. Donc, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le geste d'Adam et de Ève déclarait son indépendance face au gouvernement du ciel. En rompant leur relation avec Dieu, l'homme a perdu sa position de gestionnaire, d'ambassadeur du royaume de Dieu. Il a perdu sa domination sur la terre, la gestion de la terre, et ils perdirent leur relation avec Dieu, le Saint-Esprit. Donc, quand on parle de l'amour et de la grâce de Dieu, c'est important que ce que je dis ce matin, c'est de mieux saisir, et vous allez mieux saisir certains textes dans votre parole de Dieu avec certains éléments que je suis en train de vous dire. Leur relation d'intimité avec Dieu a été brisée, l'image de Dieu a été brisée dans nos vies, notre identité a été volée d'être à la ressemblance de notre Créateur et on a laissé place à la nature charnelle. Cette chute a brisé non seulement notre vie, notre identité a été brisée, notre position et notre intimité avec Dieu a été perdue. C'est la chute. Donc, l'homme a perdu sa position de domination de la terre par la désobéissance à la parole de Dieu. Adam est devenu un représentant disqualifié du ciel sur cette terre. Cette désobéissance fit perdre un royaume, la terre, à l'homme. L'homme n'avait plus rien pour lui. Donc, il est devenu, je dirais, un citoyen sans pays, un roi sans royaume et un souverain sans domaine. Il n'avait plus rien. Il a tout perdu. Il a tout était perdu. Dieu les a même sortis du jardin de l'Éden. Adam a perdu son autorité, la gestion de la terre. Il a perdu la bénédiction, la faveur de Dieu. Voyez-vous à quel point qu'on paie encore aujourd'hui la conséquence de ces choses-là? Car Dieu nous a sortis du jardin de l'Éden, et le mot « Éden » veut dire « plaisir et délice ». Donc, c'est-à-dire que l'homme a perdu son plaisir de servir Dieu qui était son délice. Par ce geste de désobéissance, la terre est devenue un territoire illégal. Donc, le royaume des ténèbres a pris place. Satan a volé notre bénédiction, la bénédiction de l'homme. Il a détruit le plan de Dieu pour l'homme. Et dans cette chute également terrible, donc Ève, ses grossesses vont aller de la, vont être plus pénibles. La terre reçoit la malédiction. L'homme va travailler très dur à la sueur de son front. Et je pense que c'est vrai. Et pour le serpent, il va rentrer sur le ventre tout le reste de sa vie. Donc, écoutez bien, juste avant d'entrer dans mon vif de sujet dans quelques secondes, dans cette malédiction, l'homme va connaître une mort physique, son esprit va lui redemander, l'esprit se retire, l'homme meurt, il y aura une mort spirituelle où que le contact avec Dieu, avec nous, va être terminé. Il y aura la mort éternelle pour ceux qui vont refuser le plan rédempteur jusqu'à la fin de leur vie. Maintenant, il y a une conséquence terrible, mais une bonne nouvelle. À travers ce que je suis en train de vous dire, il y a une bonne nouvelle. Une prophétie d'espoir va sortir de cela. Et pour l'homme, maintenant, il va pouvoir retrouver la faveur, la bénédiction de Dieu pour qu'il soit sauvé de la colère et de la malédiction. Écoutez bien, Genèse, chapitre 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité, celui-ci t'égrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Écoutez bien, ce verset comprend, et c'est important, c'est après ça que je vais m'en aller, ce verset contient la première promesse implicite du plan rédempteur de Dieu pour l'homme. Le cœur de cette promesse, c'est l'annonce d'une postérité qui brisera le pouvoir de l'adversaire en reconquérant l'autorité et la domination qu'Adam a perdue. Écoutez bien, pour la première fois, nous voyons un roi Messie annoncé déjà dans le jardin de l'Éden. Dieu annonce prophétiquement une lutte entre Satan et Jésus-Christ, un message d'espérance sort qui ressort d'un message de malédiction. Écoutez bien, ça c'est l'amour, ça c'est la grâce. L'homme est tombé, mais Dieu pourvoit un autre plan. Alléluia! Dieu n'est jamais dépourvu. Dites-moi amen. Dieu n'est jamais dépourvu. On peut tomber, on peut chuter, mais Dieu a un plan. Alléluia! Dites avec moi, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour me relever. Et c'était la même chose à travers la chute de l'homme. C'est la progéniture de Jésus-Christ, d'une femme que Jésus-Christ va sortir. Et cette prophétie s'est réalisée à la croix de Golgotha, où il y a eu une victoire complète face à l'ennemi. Satan ne pouvait que blesser, soit le talon, faire souffrir Christ, tandis que Christ va écraser la tête de l'ennemi. Alléluia! La parole nous enseigne que cette prophétie s'est réalisée par la venue du roi Messie. Alléluia! C'est un roi qui est venu sur la terre. C'est un Messie, mais c'est le roi Messie Jésus-Christ, le roi Jésus-Christ qui est venu sur cette terre. Et Jésus est venu pour nous redonner ce que nous avons fait voler dans le jardin de l'Éden. Dites-moi un gros amen. C'est un gros sujet. Et Zacharie nous dit, Zacharie 9:9, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi. » Viens à toi. Il n'a pas dit un petit Jésus vient à toi. Il a dit ton roi vient à toi. Alléluia. Il est juste, victorieux, il est humble, il est monté sur un âne, le petit d'un ânesse. Donc, Sois dans l'allégresse ce matin. La prophétie de Zacharie, nous la retrouvons dans Matthieu, chapitre 21, verset 1. Il dit, sois heureux, sois rempli d'allégresse. Il y a un sauveur qui vient. Alléluia. Il y a d'autres prophéties, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans ça ce matin. Et ce roi, ce rédempteur, est venu accomplir la promesse pour que l'homme retrouve ce que Satan nous a volé. Écoutez bien, Jésus-Christ a écraser la tête de notre ennemi. L'ennemi n'a plus le pouvoir sur ma vie. Dis-le. Dis-le avec moi. Ennemi, tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Arrêtez de vivre en vaincu, vivez en vainqueur. Souvent, dans mes combats spirituels, je dis, mais non, j'ai un combat, mais il n'y aura pas ma tête. Je vais combattre pour ma victoire. C'est moi qui ai l'autorité. C'est pas lui qui doit régner. Sois ce victorieux, ce combattant, alléluia. Paul nous indique que la puissance, l'œuvre de la croix qui a été versée où Jésus est mort, où le sang versé pour nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts a signé une défaite totale à notre ennemi. La mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. C'était une défaite pour le monde dans l'enfer. Et 1 Jean 3, 18, je ne l'ai pas donné, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Donc, par l'œuvre de la croix, Jésus redonne à l'homme qu'est-ce qu'on a perdu. Et j'aimerais regarder 5 points ce matin de pourquoi que Jésus est venu sur terre. On a une bonne idée, hein? Avec qu'est-ce qu'on vient de voir, avec la chute. Donc, Jésus est revenu pour quelque chose de bien précis. Jésus est appelé, premièrement, appeler l'homme à la repentance. Charles Spurgeon a cité ceci. Le péché et l'enfer sont mariés jusqu'au moment où la repentance proclame le divorce. Oh, c'est bon, hein? Je le répète. Le péché et l'enfer sont mariés jusqu'au moment où la repentance proclame le divorce. Si l'homme veut retrouver ce qu'il a perdu, ce qui a été perdu dans le Jardin de l'Éden, il doit comprendre c'est quoi la bonne nouvelle. Pourquoi nous disons que nous avons une bonne nouvelle? Et pourquoi qu'on doit faire divorce avec l'enfer? Matthieu, chapitre 1, verset 15, nous dit, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Pour adhérer, je dirais, à la bonne nouvelle du royaume des cieux, le premier message que Jésus a proclamé, c'était la repentance. Et Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher, il dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La première condition pour retrouver le baraque de Dieu, la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur du Père, ça passe par la repentance. Ce que Jésus a annoncé en réalité à l'homme, il dit, « Vous ne marchez pas sur le bon chemin. Il faut faire demi-tour, changer de route. » C'est ce que tu es en train de nous dire. Et à partir de ce moment-là, c'est moi qui vais vous emmener au Père. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, et nul ne vient qu'au Père que par moi. Jésus nous dit, si tu veux connaître le royaume des cieux, reconnaître la justice de Dieu, reconnaître la sainteté de Dieu, son amour, sa grâce et son pardon, change complètement ton raisonnement. Et changez vos pensées. La mentalité du royaume de Dieu n'est pas la mentalité du royaume du monde. C'est pas la mentalité du royaume des ténèbres. Satan a volé le royaume de Dieu. Mais Jésus est venu nous redonner le royaume. Il dit, change ta mentalité. Mon royaume ne fonctionne pas comme vous fonctionnez. Si tu veux adhérer au royaume de Dieu, hériter du royaume de Dieu, il faut qu'il y ait une mentalité nouvelle qui s'installe et de changer de direction dans nos vies. C'était le message de Jésus. C'était le message des apôtres. C'était le message de Paul. C'était le message de tous les apôtres. Hallelujah! Pourquoi qu'on serait exempt d'en parler? Oui, Dieu est bon, je comprends ça, mais Dieu veut du changement dans nos vies. Et ça passe par la repentance. Combien de fois dans ma vie j'ai demandé pardon, puis pardon, ça, j'ai tombé, j'ai chuté, j'ai gaffé. Ah, écoutez, je suis pas loin d'être un gars parfait, là. La repentance, ça se fait dans ma vie aussi. Allô? Tout le monde passe par la repentance. On a besoin de mettre notre orgueil de côté et de réaliser que j'ai besoin d'un changement dans ma vie. Il faut briser cette attitude-là. Tu es un devant le cœur de Dieu. Dieu demande que nos cœurs changent. Et c'est pour moi et c'est pour vous. Je ne suis pas mieux que vous. Je suis un humain comme vous. Je me lave comme vous, vos toilettes comme vous. Mon cœur n'est pas parfait. J'aime Dieu, mais il n'est pas parfait. Je dois passer par la repentance. L'homme ne sera pas sauvé à cause de sa religion, de son ritualisme ou des bonnes œuvres. Jésus a dit à Nicodème, un pharisien, vous connaissez l'histoire, un homme religieux qui suit la loi judaïsante, que la loi de Dieu a 10 commandements et les pharisiens ont rajouté 600 autres. Autre ordonnance, 613 ordonnances pour suivre Dieu. Tu ne peux pas être plus religieux ça, sinon tu meurs. Et Jésus a dit à Nicodème, il dit, il faut que tu naisses d'en haut. Pas de la religion, mais si tu veux être sauvé, regarde-moi, il faut que tu naisses d'en haut. Pourquoi? Écoutez bien, le royaume des cieux se réfère à la présence et à l'autorité souveraine de Dieu qui affecte toute la terre. Je le répète, parce que le royaume des cieux se réfère à sa présence et l'autorité souveraine que Dieu qui affecte toute terre. Je vais aller plus loin. La mission de Jésus ne se limitait pas juste à relever le royaume de Dieu, mais il devrait la réintroduire. Et c'est ça qu'on essaie en tant qu'Église, de réintroduire le royaume de Dieu. Pas la religion, mais son royaume. Et c'est pour ça que je vous parle souvent de mentalité et de culture du royaume de Dieu. Jésus est venu nous ramener à la connaissance du royaume et de changer notre mentalité afin que je puisse vivre une culture et une mentalité qui va plaire à mon Père. Alléluia! Ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur sauveur, qui reconnaissent que Jésus est descendu du ciel, qui nous a amenés sur le chemin de la vérité, qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts, pour me racheter et enlever la malédiction, la condamnation de mon péché, et que je me repens de mes péchés, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Parce que par votre repentance, deuxièmement, vous allez devenir une nouvelle créature. C'est ça que la Bible enseigne. Tite 3, verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Écoutez bien, dans son amour, Jésus, Dieu le Père, nous a sauvés par le baptême de la régénération. Le salut, ça procure un baptême de régénération. Qu'est-ce que c'est en réalité le baptême? C'est un lavement intérieur. C'est le nettoyage de nos péchés. C'est la purification de nos péchés. Et la régénération, c'est la nouvelle naissance. C'est une nouvelle récréation, je pourrais dire, un renouvellement, un nouveau départ, une nouvelle vie avec un nouvel homme intérieur. Ça, c'est la nouvelle naissance qui va être générée par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit fait son habitation en nous. Écoutez bien, cette régénération produit une vie qui va se consacrer à Dieu. C'est un changement d'esprit radical, d'esprit pour le meilleur. Tu changes pour le meilleur. Tu ne dois pas changer pour le pire. Tu changes pour le meilleur. Tu dis à la personne, « Oh, je suis content, moi, je m'en vais vers le meilleur. Je m'en vais vers le meilleur. » Allô? Les choses de base ce matin. La régénération, c'est utilisé pour dénoter une restauration d'une chose dans son état d'origine, comme un renouveau, une restauration. Tu sais, des fois, les gens, « Oh, on va restaurer mon meuble. » Pourquoi? Vous le remettez à l'état neuf. C'est ça, la restauration. Et Jésus nous met à l'état neuf. Un nouveau départ. Comme qu'il existait à l'origine, avec Adam et Ève. Cela veut dire que vous allez retrouver votre identité, l'identité qui a été brisée. Vous allez la retrouver à travers votre salut. Qu'est-ce qui a été brisé? Votre réparé. Alléluia. Et c'est pourquoi que Paul nous dit, Corinthiens 2, connaissez par cœur, versets 5 et 17, si quelqu'un est en Christ, il était quoi? Il n'a pas dit que vous êtes une ancienne créature, vous êtes une nouvelle créature. Donc, reflétons qui nous sommes comme une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vive pas dans le passé, apprends à vivre dans le nouveau. Moi, je sors un peu de mon idée. Moi, mon père, quand ma mère est décédée, il me parlait toujours, quelques années, c'était long. Puis il me parlait toujours du passé. J'ai dit, père, apprends-donc à vivre dans le présent. Allô? On reste dans le passé, puis dans le passé. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux changer ton présent. Allô? Je ne sais pas si c'est pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai du passé que je ne veux pas revenir dessus, soyez rassurés, là. J'ai été réconcilié avec mon Père pour vivre une nouvelle vie. Par la repentance, par la régénération, nous devenons cette nouvelle créature. Nous sommes pardonnés. Alléluia. Dis-le, je suis pardonné. Quand nous conseillons les gens, nous allons avec les gens, ou que nous donnons de la relation avec les gens, nous, on dit souvent aux gens, t'es pardonné. Arrête de vivre sur la culpabilité. Tu es pardonné. Vois ta vie différemment. Comprends-tu? Si tu veux avancer dans la vie, bien, passe du passé, puis va-t'en dans le présent. J'avais un bon char, là, 30 ans, il était à rouille, puis il finit ton vieux char. Tu veux avec un nouveau char, là. Regarde la question de nouveau, là. Il est important de comprendre que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres pour être ramenés dans le royaume de Dieu. C'est à cause du sacrifice de Jésus que nous devenons une nouvelle créature, adoptée dans la famille de Dieu. Galates 3:13, Christ qui nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bras ». Donc, Christ l'a pris la malédiction. Troisièmement, nous serons justifiés et sanctifiés. Par le péché, l'homme est coupable. Il se tient devant Dieu. S'il n'y a pas Dieu dans sa vie, il est coupable. Donc, il y a une condamnation à mort qui s'en vient. Mais Jésus a été l'agneau parfait qui enlève le péché du monde. L'homme sans Dieu, il est perdu. Et sa destinée, c'est l'enfer pour le reste de sa vie. Mais Jésus, pour celui qui adhère avec lui, prend la condamnation. Prends la malédiction face à la croix. Et par le sacrifice, par le sang du sacrifice, par cette nouvelle alliance, Jésus a dit à son dernier souper avec les apôtres, voici la coupe de la nouvelle alliance qu'il est répandue pour chacun de vous. Et la Bible nous dit également, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Maintenant, par le sang de Jésus-Christ, au lieu de recevoir une sentence de condamnation, de culpabilité, Dieu le Père, par l'alliance de sang qui a été faite avec le Fils, vous dénonce une sentence de libération. Au lieu de te voir coupable, maintenant Dieu te libère de ta culpabilité. Voyez-vous, c'est des choses simples que je suis en train de dire, mais ça peut être très libérateur, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui sous la culpabilité, sous le rejet, qui ne sont pas compris, puis il y a beaucoup de problématiques face à ça, mais si tu comprends ton identité, de qui tu es en Christ, tu ne vivras pas dans ces choses-là. Tu vas passer peut-être des temps durs, qui ne seront pas faciles, mais tu vas réussir à en passer parce que tu comprends ton identité. Puis tu vas comprendre que ton Père n'est pas là pour te délaisser ni t'abandonner. C'est important. Alléluia. Donc, cette sentence d'acquittement, c'est pour ta liberté. Et ça s'est fait par la justice de Dieu. Et quand nous parlons de la justice de Dieu, je vais le répéter, je le répète dernièrement assez souvent, c'est un terme légal qui signifie jouir d'une bonne position. Quand tu parles de la justice de Dieu, c'est de jouir d'une bonne position. Et cette justice de grâce, tu deviens une personne juste et droite devant le Père à cause du sang de Jésus, qui va t'apporter également à recevoir l'héritage des saints, les promesses du Père, parce que tu jouis d'une bonne position devant ton Père céleste. Tu n'es plus un condamné, mais tu es un enfant de Dieu qui a droit aux promesses du Père, parce que tu es justice de Dieu, tu es libéré, et Dieu le Père veut bénir ses enfants. Dites-moi un gros amen! La délivrance de Dieu, la délivrance de nos péchés, elle est acquise. Vous passez des ténèbres à son admirable lumière parce que vous êtes justice de Dieu par le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés de la malédiction, de la condamnation du péché. Vous êtes saints, sanctifiés, c'est-à-dire vous êtes mis à part. Il nous a restaurés, il vous a remis à neuf. Il a restauré dans vos vies sa sainteté. Vous êtes saints, vous êtes pur, vous êtes sans tâche et sans défaut.
Amen.
Moi, je ne suis pas pour l'esprit de condamnation, là. C'est pas du tout ça. Là. Moi, je crois qu'un chrétien né de nouveau doit vivre comme un chrétien né de nouveau. De vivre épanoui dans la vie chrétienne. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des flats, c'est pas vrai. Mais on doit se relever. Je le répète, l'amour de Dieu. Jésus revient chercher une église pure et sans tâche et sans défaut, mais c'est ça, vous êtes devant lui, par sa justice. Si vous avez péché, la Bible nous dit, nous avons un avocat fidèle et juste qui fait quoi? Qui nous pardonne de qui? De quoi? De nos péchés? La repentance ramène au trône de la grâce de Dieu. Tout cela. à cause de l'amour de Dieu. Adam et Ève étaient comme ça dans le jardin de l'Éden. Ils étaient purs, ils étaient sans tache, ils étaient parfaits devant Dieu. Tout cela, maintenant, nous sommes pareils à cause du sang. C'est une bonne nouvelle, je vous annonce en réalité maintenant. C'est une nouvelle de libération, alléluia. Seul le sang de Jésus peut nous racheter. 1 Corinthiens 4, 15, verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. » Donc, par la régénération, par le Saint-Esprit qui vit, qui veut venir ou qui vit en nous, c'est seulement lorsque nous sommes purifiés, saints et purs, que nous devenons un vase convenable à contenir la présence de Dieu dans nos vies. Et ça se fait par la nouvelle naissance. Au début de la création, Dieu avait une relation parfaite avec ses enfants. Et ça a été perdu, le lien a été perdu, la communication a été brisée, a été rompue, mais par le baptême de la régénération et par le renouvellement de l'Esprit, nous avons été renouvelés par le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » La bonne nouvelle. Maintenant, l'Église doit apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. La première priorité dans ma vie, c'est le Saint-Esprit. Instruis-moi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de ces choses, mais j'ai besoin que l'Esprit de Dieu vienne me révéler ici. La connexion spirituelle a été retrouvée quand le Saint-Esprit est venu dans nos vies. Le Saint-Esprit est venu rétablir qu'est-ce que nous avions perdu, la communication avec Dieu. L'Esprit de Dieu veut nous parler, comme que parler avec Adam et Ève dans le jardin de l'Éden. L'Esprit Saint, si on est né de nouveau, témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et l'Esprit même témoigne à mon esprit, Abba Père, que j'ai un Père céleste, alléluia. Mon esprit crie à bas papa. Et comme le Père veut parler à son fils et à sa fille, il vit en moi. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui m'a rempli non seulement de puissance, mais il me guide dans la parole, il me dirige dans sa connaissance, il me dirige dans la vérité, il me rappelle toutes choses que Jésus nous a enseignées. Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous parle tantôt d'une façon, il parle tantôt d'une autre façon, il nous parle dans un doux murmure, il nous parle par des visions, il nous parle par des songes, il nous parle par la parole prophétique, il nous parle par la prédication de la parole de Dieu, il nous parle par les choses de la vie. Donc, l'homme n'est pas appelé à rester stable, il est appelé à avancer, alléluia. Également, Jésus a promis à ses disciples qu'il nous enverrait la puissance, le Saint-Esprit, lors de son départ, qu'il nous enverrait la puissante onction. Acte 1-8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, Jésus-Christ fait qu'il meure, qu'il ressuscite d'entre les morts, que son sang soit appliqué, non seulement pour purifier nos péchés, mais Jésus est venu nous justifier, nous sanctifier, puis un jour aussi, nous allons le glorifier, parce que l'Église va être enlevée, et nous allons vivre avec l'éternité avec Jésus-Christ. Donc, Jésus est venu nous mettre à part pour que nous devenions une nation sainte, un peuple acquis, un sacrificateur, un royaume de sacrificateurs. Écoutez bien, nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce de Dieu. Et ça, là, la grâce de Dieu, là, c'est, tu ne peux pas la donner. C'est un cadeau. C'est la nouvelle naissance. Si tu veux connaître le cœur de Dieu, donc, on a vu les quelques points que nous avons vus par le baptême de la régénération, par la venue du Saint-Esprit dans nos vies, tu vas retrouver ce qui a été perdu dans le jardin de l'Éden. Soit de retrouver le désir de retrouver Dieu, qui deviendra maintenant encore ton délice, alléluia, et de marcher dans la force, dans la puissante onction, dans l'autorité face au monde des ténèbres pour être victorieux à ton tour sur les forces du mal, pour régner en force, en autorité et en puissance. Voyez-vous qu'est-ce que Jésus est venu nous redonner? À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit doit devenir un ami fidèle. C'est ton compagnon de tous les jours. Souvenez-vous, lisez les lettres de Paul, où que Paul a eu des visions, où que le Saint-Esprit dirigeait Paul de part et tout côté. Paul, avec la Macédoine, qui a eu un songe, a eu des visions. L'Esprit de Dieu marchait avec cet homme-là. Alléluia. Et je crois qu'on doit revenir à ces choses-là, que l'Esprit de Dieu doit revenir dans son Église. Il doit être reconnu dans son Église. Les soirées de réveil qu'on veut vivre, il faut que l'Esprit de Dieu soit présent. Sinon, on devient de la religion. Moi, j'ai vécu des soirées de réveil extraordinaires à des places, puis des fois, je dis, mais non, Mike, on a eu du bon temps. J'ai hâte de revivre du bon temps. Alléluia! Il y a de la joie dans l'église. Il y a de la joie. C'est popé. Les gens sont heureux. Ça, tu sens l'atmosphère. Caroline, j'ai besoin de ça, moi. Je ne sais pas si c'est juste moi ou si... J'ai besoin de vivre ça. Le réveil, on veut le réveil, mais... Seigneur, réveille pas trop, parce que moi, je serais pas content. Non, non, non. Si Dieu veut te réveiller, il va te réveiller. C'est pas moi qui va le faire. Tu acceptes ou tu refuses, t'embarques ou tu débarques, mais... Allô? Oh, là, 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 là. Et dernier point, avoir droit à son héritage. La Bible nous dit, Colossiens 1:12, « Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Dieu nous a rendu capable d'avoir l'héritage des saints dans la lumière. Écoutez bien, j'aurais pu développer juste un message avec ça, mais je n'ai pas le temps, là. Ça nous parle ici d'un héritage dans la lumière. C'est-à-dire que Dieu est lui-même appelé lumière, OK? Et à partir de ce moment-là, parce que la lumière, c'est l'image de la pureté et de la sainteté. Et ça exclut les ténèbres, ça exclut toute souillure. De même, pour nous, nous sommes la lumière du monde. Est-ce que c'est ça qui est écrit dans votre Bible? Que nous sommes la lumière du monde. Donc, un enfant du roi, justifié, saint et pur, ça démontre la grandeur de son roi. Allô? Donc, ça le démontre par ses actions, ça le démontre par ses attitudes, ça le démontre par ses comportements, pour que notre vie reflète la gloire de Dieu. Ça vous parle-tu un petit peu? Tout croyant a été fait héritier et co-héritier de la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu, nous pouvons rentrer dans notre héritage et pour adhérer à ses promesses également, qui sont oui, qui sont amen. Il ne faut pas rester à la porte de la bergerie, mais il faut entrer dans la porte par la porte. Et si nous entrons, je vous lance un défi un matin, si nous entrons dans la mentalité, dans la culture du royaume de Dieu, nous pouvons commencer à vivre, à penser et à agir comme des personnes qui réclament les promesses de Dieu. Allô? J'emporte quelque chose peut-être de vu différemment, là, mais quand même intéressant comme pensée. Et je crois qu'en étant enfant de Dieu, justice de Dieu en Christ, Dieu le Père désire déverser son baraque, sa bénédiction sur vos vies. Tout moins grand mal. Hein? Dieu veut déverser son amour, sa grâce, sa bénédiction. Soyez pas comme ça. Dites amen, hallelujah. Papa veut bénir. Croyez-y à vos bénédictions. Oh, mais tiens, en coude, tiens, si ça marche pas, peut-être, je suis pas sûr. Marche pas comme ça, la foi, là. C'est pas le langage de la foi. C'est le langage d'un lamenteux, là, qui connaît pas Dieu. Quand on a le Seigneur, qu'on s'approche de la parole de Dieu, qu'on s'approche de la vérité de Dieu, qu'on commence à confesser la parole de Dieu, le diable commence à prendre sa place. Tu commences à voir la victoire dans ta vie, je le répète. La nouvelle naissance, ça ne veut pas dire « reste à la porte ». Jean 10:10, ça nous dit « le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, Satan, c'est un tueur spirituel, mais Jésus nous dit le contraire, qu'il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Donc, Jésus veut nous redonner ce matin une vie spirituelle pour l'éternité. Et cette vie, elle est remplie d'abondance, la vie abondante. Et quand Jésus est venu sur cette terre, il a pris le mot « Zoé » pour la vie. Le mot, vous connaissez sûrement, vous avez entendu ça souvent, là. Zoé, c'est la plénitude absolue de la vie. La vie réelle, la vie véritable, une vie active, vigoureuse, qui est voué à Dieu. Une vie bénie pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Jésus, son désir, c'est comme Jean 3, versets 1 et 2, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » la bénédiction de Dieu. Dieu veut que ses croyants soient, oui, en bonne santé, et qu'il veut accompagner sa bénédiction, sa faveur, son désir, c'est que tu prospères dans ta famille, dans ton travail, dans ton projet, dans tes ministères. Le plan de Dieu, en travers la rédemption de Dieu, c'est de répondre à tes besoins physiques et spirituels. Amen. Combien le croient? Voyez-vous la bonne nouvelle qu'on annonce ce matin? C'est quelque chose de grandiose. Le mot « prospère », puis je vais terminer dans quelques minutes, le mot « prospère », ça signifie littéralement faire un bon voyage, être guidé sur un chemin sans encombrement. Jésus veut qu'on fasse un bon voyage sur la terre. Je ne te dis pas qu'il n'y aura pas de problème, pas ça. Mais il veut que tu aies un bon voyage. La prière de Jean, en réalité, que Jean, son cœur dit, suivez la voie du salut. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse, que vous jouez de ses bénédictions. Sois épanoui. Sois épanoui. Vous savez, à travers les années, on a appris, moi et Manon, la tristesse. C'est quoi la tristesse? La déception, le découragement. Combien de fois que j'ai passé là, honnêtement? Je suis revenu à la maison, souvent avec mes deux valises en voyage, puis je déposais ça, puis j'avais juste le désir de pleurer. Mais là, on disait, oh, ça n'a pas marché, ça n'a pas été comme j'ai voulu. J'ai rencontré des gens qui étaient durs. Ça. Souvent, j'ai vécu mes défaites. Mais je disais, mais non, je suis un enfant de Dieu. Papa, tu vas plaider ma cause. Je n'ai pas resté sur un esprit négatif. Je n'ai pas resté sur le négatif. Puis même à travers la dernière année, je n'ai jamais resté dans l'esprit négatif. Je n'ai jamais voulu abattre ça. Je n'ai jamais voulu rester là. Merci Seigneur, la victoire. Merci Seigneur, tu vas guérir. Merci Seigneur, parce qu'il y a une bénédiction. Merci Seigneur, parce qu'il y a d'autres choses. Mais... le baraque de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'amour de Dieu, t'a changé de royaume, alléluia, t'a changé de citoyenneté. Commence à penser comme un citoyen du royaume des cieux. Écoutez bien, ta citoyenneté, selon Philippiens 3:20, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, nous allons mourir. Un jour, on va aller au ciel. Un jour, on va revenir. Un jour, on va régner avec Christ 7 heures pendant les 1000 ans. Puis après les 1000 ans, ce sera le millénium. Pas le millénium, mais la Nouvelle Jérusalem. On a encore du temps à passer, mes amis. Fait que boostez vos machines, là. Booste ta machine un matin, parce que tu vas trouver l'éternité longue, sinon. Vous pouvez réclamer, et je vais terminer, en tout temps, ta bénédiction. En tout temps, tu as le droit à des promesses. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Moi, je crois de tout mon cœur, c'est à nous, enfants de Dieu, que la foi se lève ce matin. Et si on veut une prospérité en 2024, il va falloir réaliser qui nous sommes en Jésus-Christ. Qui est ton entité en Christ? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses, des dons et des talents t'a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi et pour vous? Il nous a rachetés. Alléluia! Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné sa prospérité. Qu'est-ce qui nous manque, mes enfants? Qu'est-ce qui nous manque? Je sais, Jésus parlait comme ça. Mes enfants, ils appelaient comme ça. Qu'est-ce qui nous manque? Il ne manque rien. Savez-vous qu'est-ce qui nous manque? L'audace, le courage, la détermination d'aller plus loin. Moi, c'est ma devise, en tout cas. Et c'est comme ça que je vis ma vie chrétienne. Réclamez vos droits. Réclamez-le. Il y a un héritage pour vous. Il y a des promesses pour vous. Il y a un héritage éternel pour vous. Je termine en disant, Jésus nous dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Entre dans les promesses. Fais-moi confiance. Ce matin, je veux dire, si Jésus est venu nous redonner notre bénédiction, ça passe par la repentance, devenir une nouvelle créature, pour être justifié, sanctifié, le Saint-Esprit va vivre en nous et vous allez vivre dans votre héritage. Voilà la venue de Jésus-Christ. Comprenez-vous un peu mieux mes deux messages, l'adoption? Puis c'est des messages que je vais réclamer jusqu'à la fin de ma vie. L'amour de Jésus, la grâce de Dieu, qui ne m'a pas rejeté, mais qui m'a adopté. Amen.